Résonance sur Radio B, Alain Goudard, bonjour et bienvenue. Résonance part sur les routes de la région et d'ailleurs. Au cours de cette saison radiophonique, Résonance vous invite à parcourir les routes de la région Rhône-Alpes et d'ailleurs pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques afin de mieux en parler et de confier ainsi la parole aux porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, deuxième volet de notre série d'émissions réalisée au musée Ariana de Genève, dans le cadre de notre enquête « Comment le musée peut-il, dans sa démarche, être un espace de dialogue, d'invention et de mobilisation ?» Chaque pays en Europe, à travers ses politiques publiques, a sa manière de travailler et de mettre en œuvre l'accès de tous aux arts et à la culture. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Résonance a choisi de venir à la rencontre de nos amis suisses et d'installer ses micros au musée Ariana, musée de la céramique et du verre, en plein cœur de Genève. Lors de notre première émission, nous avons pu, en compagnie d'Isabelle Naef Galouba, directrice du musée Ariana, et de Jeanne Pont, attachée culturelle au service de la promotion culturelle du département de la culture et du sport de la ville de Genève, nous interroger sur les missions, le rôle du musée aujourd'hui. Nous avons tenté de répondre à ces questions. Que vient-on chercher dans ces établissements pluriels et quels liens nous souhaitons entretenir avec le musée, avec la culture dans son sens le plus large du terme? Et donc finalement, la culture pour quoi faire? Résonance vous propose aujourd'hui de poursuivre cette réflexion et d'approfondir celle-ci en découvrant certaines actions concrètes mises en œuvre ici, au musée Ariana de Genève, notamment en direction de personnes malvoyantes et de la communauté sourde. Dans cette enquête, il nous semble important de déplacer le regard, d'introduire d'autres angles de vue pour susciter une autre lecture de ce processus. Le handicap bouscule, il sert de révélateur, il met en branle, en mouvement la pensée et les systèmes d'organisation. Il entraîne de fait des évolutions qui deviennent des actualisations et l'actualisation est création. Nous souhaiterions avoir ainsi une lecture qui s'intéresse plutôt à ce qui fait que la question de l'accueil de ces publics met en mouvement, conduit à l'invention, à la création, au changement permanent, ouvre d'autres perspectives et devient un moteur pour inventer ensemble. J'ai le plaisir de recevoir à ce micro pour cette deuxième émission Hélène de Riquel, qui est responsable de la médiation ici au musée Ariana. Bonjour.
Oui, bonjour.
J'ai également le plaisir d'accueillir Marie-Paul Christian. Vous êtes ergothérapeute, passe vision, formatrice d'adultes de l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants. Bonjour.
Bonjour.
Et puis également Valtraud Kilbier, intervenante malvoyante dans les visites partage au musée Ariana. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les trois pour essayer justement d'échanger ensemble autour de toutes ces questions. Et peut-être, Hélène de Riquel, on pourrait venir dans un premier temps sur un peu l'action qui a débuté. On l'a évoqué dans cette première émission avec Jeanne Pons et Isabelle Neff-Galouga. Finalement, le début du musée à rendre petit à petit, depuis 2009, sa collection permanente et ses expositions temporaires accessible à un public élargi, qu'il soit enfant, aîné, adulte, personne en situation de handicap, migrant. Cela veut-il dire qu'avant 2009, cette démarche d'aller vers ce public élargi n'était pas aussi présente au sein du musée ?
Elle n'était pas présente.
Du tout même.
Du tout. 2009, parce qu'en fait, c'est ici justement au musée Ariana qu'on a fait les premières visites en langue des signes avec une médiatrice culturelle sourde. Et c'était une première en Suisse.
Et comment ça s'est présenté, c'est-à-dire cette rencontre justement avec cette communauté, avec la communauté des sourdes et cette personne du coup qui crée l'événement finalement?
Oui, alors d'une part, c'était une volonté de la part de ce public. Donc on a été en contact avec la Fédération Suisse des Sourds qui voulait justement offrir à leurs membres des activités culturelles. Et d'autre part, il y avait une volonté politique, évidemment, de rendre les musées accessibles à tous.
Et du coup, c'est cette expérience, j'imagine, comment elle a été reçue à la fois, je dirais, à l'interne.
En
et
interne,
puis,
oui.
Parce que c'était quelque chose de complètement nouveau, j'imagine, pour une personne qui est à l'accueil, pour une autre. Enfin, de se dire, tiens, un langage, une manière de communiquer qu'on avait peut-être pour certains découvrait complètement, peut-être. Et ça bousculait des choses?
Ça bousculait, mais donc il y a eu deux types de formation, si vous voulez, en tout cas de sensibilisation. Bah, d'une part, de notre personnel d'accueil, on a fait des formations de sensibilisation. Mmh. On a justement une personne à l'accueil qui avait un frère sourd, donc forcément, il connaissait déjà un petit peu la langue des signes. Et d'autre part, bah, il a fallu former notre médiatrice culturelle, aussi bien au niveau du contenu de notre musée, mais également au niveau du métier de médiateur.
C'est ça.
Comment transmettre... et ça, c'est aussi important, parce que la manière fait que la visite est réussie ou pas.
La visite est réussie ou pas, effectivement. Alors du coup, au fur et à mesure, il y a ce démarrage en 2009, et puis bien sûr, petit à petit, des manifestations, des expositions aussi s'organisent aussi de cette manière-là. Je pense notamment à celle autour de Jean Fontaine, à un moment donné. Il y a cette approche d'un public nouveau, et puis petit à petit, tout un travail autour, justement, avec les médiateurs et ces liens-là, qui font que petit à petit s'organise aussi cet accompagnement, cet accueil. Comment ça se passe un petit peu, cette préparation-là?
Alors, l'exposition de Jean Fontaine, c'était juste un plaisir. On a un artiste qui est dans le partage. Parce que, évidemment, les œuvres d'art, on ne peut pas nécessairement les toucher, même parfois des œuvres d'artistes contemporains, parce que c'est fragile, etc. Donc ici, on a vraiment à la base Jean Fontaine qui a dit, voilà, moi j'ai déjà fait pas mal de choses, tout le monde peut toucher mes œuvres.
Ça, c'était déjà un changement. Ça,
voilà,
aussi.
Pour nous, c'est déjà un changement, parce que bon, bah, dans les musées, beaucoup d'objets sont derrière les vitrines. Donc on s'est dit, on peut toucher tout le monde, qu'on soit malvoyant ou pas. Donc on s'est dit, on va organiser des visites pour les malvoyants. C'était quelque chose qui me trottait dans la tête déjà depuis plusieurs années, mais je n'avais pas eu l'opportunité.
L'opportunité, oui.
Donc quand on monte un projet, il faut faire des partenariats, parce que moi, je n'ai pas de problème de vue, enfin, quoique je porte des lunettes pour lire, mais je n'ai pas de difficultés, il y a des choses que je ne pense pas. Donc j'ai rencontré Marie-Paul, de l'Association pour le bien des aveugles et des malvoyants. Et puis là, on a monté un projet. On a rencontré des malvoyants et des aveugles et on s'est posé diverses questions. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils ont envie de jouer un rôle? Parce que même si au départ, c'était des visites pour les malvoyants et aveugles, après, le projet a pris de l'amplitude et on a, pour finir, engagé 4 personnes malvoyantes et aveugles pour être médiateur pour des personnes voyantes, mais qui découvraient l'exposition de Jean Fontaine d'abord comme malvoyant.
Alors, peut-être on va se tourner vers vous, justement, Marie-Paul Christian, quand Hélène de Riquel évoque, se dire, effectivement, on a le désir, mais comment faire ? Et que du coup, il est important, là aussi, comme sur bien des aspects, mais encore peut-être d'autant plus sur ces aspects-là, d'aller rencontrer aussi ceux et celles qui déjà, d'abord, portent ce handicap, mais aussi qui accompagnent déjà et qui réfléchissent autour de cette question. C'était peut-être les premières fois que vous étiez comme ça, contacté par un lieu culturel pour se dire, tiens, voilà, on se penche sur ces questions, on ne sait pas trop comment aborder la question. Est-ce que vous pouvez nous aider quelque part à avancer ?
Alors, ça n'était pas la toute première fois à Genève, puisqu'il y a plus de 20 ans, on avait eu déjà quelques partenariats, quelques expériences partagées avec Jeanne Pont, qui à l'époque était médiatrice culturelle dans un musée.
Très bien.
Mais là, on s'est rendu compte que la bonne volonté suffisait pas, les bonnes intuitions non plus, qu'il fallait une volonté politique.
C'est ça.
Et c'est celle qui s'est trouvée depuis les années 2010. Puisqu'en fait, le contact s'est renoué au moment des rencontres d'Archamps, Culture Réunie. Et c'est là que l'on s'est retrouvés et qu'on est arrivé, nous, Association pour le bien des aveugles et malvoyants, on est arrivé à un moment clé, car il y avait des projets qui se préparaient sur l'accueil des publics, par exemple au Musée d'art et d'histoire, où le partenariat s'était réalisé avec la section genevoise de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Un peu sur le même modèle le lien avec la Fédération suisse des sourds, mais que ce groupe était un groupe d'entraide, donc constitué par des personnes déficientes visuelles, et qu'il y avait une dimension qu'il n'arrivait pas à aborder, c'était comment monter une formation. Mmh. Et ça fait partie des missions du Centre d'information et de réadaptation et de l'ABA, qui est d'offrir de la formation pour l'entourage. Et c'était quand même une dimension importante. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Marie-Hélène pour la formation qu'on a organisée au Musée d'art et d'histoire. Et c'est vraiment la dimension d'apprivoiser, de rencontrer des personnes déficientes visuelles, de prendre conscience des représentations que l'on a pour écarter la peur et aller à la rencontre de l'autre, de ses différences et de son humanité. Et les choses sont vraiment, une fois cette formation accomplie, elle reste dans les esprits. Je veux dire, que ce soit Waltraut ou les autres personnes qui ont participé à la formation ou moi-même, quand on vient au musée et qu'on rencontre du personnel, ils se souviennent. Ils se souviennent de ce moment inaugural, de ces 4 heures de formation où ils ont lâché leur peur.
Lâché leur peur. Et justement, si on revient tout petit peu antérieurement, justement à cette année névralgique de 2009, très importante, peut-être vous, avec la connaissance que vous avez, et puis Waltraut, vous pourrez bien évidemment réagir également. Quelle était peut-être la posture, comment se ressentaient les personnes malvoyantes par rapport à cette culture qui les environnait de toutes parts et qui n'avait pas forcément accès comme ils le souhaitaient ? Parce que là, c'est un moment clé, effectivement, politique, vous l'avez dit. En même temps, des choses se mettent en place, des réflexions, des envies communes. Mais du coup, comment se sentait-on avant, je dirais, ce moment-là ? Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui a quand même a contribué à changer aussi quelque chose dans leur relation pure avec ces lieux institutionnels de culture, se dire, ben voilà, maintenant ils sont un peu plus à l'écoute de ce que nous sommes, un peu plus aussi, mais comment c'était vécu le fait de ne pas peut-être avoir accès à toute cette proposition d'offre culturelle ?
Alors là, je vais peut-être laisser la parole à Waltraut et après...
Waltraut. Et vous rebondirez à ce moment-là.
Ah oui, alors là, c'est une question vraiment qui est très vaste.
Certes, je suis d'accord.
Je dois cibler un tout petit peu. Je veux dire d'abord, j'ai toujours apprécié l'art, la peinture, l'architecture, etc. Je me tenais toujours au courant des actualités, malgré ma déficience visuelle, qui est, comme elle est maintenant, seulement depuis 16 ans. Donc, quand on devient malvoyante à un âge un peu avancé, on a beaucoup de bagages culturels sur lesquels on peut se baser.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment pas la même chose d'avoir un handicap depuis le départ ou de l'avoir dans la deuxième partie de sa vie, je pense.
C'est certain.
Donc, quand il y avait cette possibilité de m'engager au musée d'Ariana, j'ai sauté dessus.
J'imagine.
Parce que l'art, c'est ma passion. C'est ma
passion,
c'est mon plaisir. Et là, je pouvais avoir un contact tout à fait particulier avec l'artiste, avec les personnes qui travaillent au musée et transmettre ça au public. Donc c'était un défi, et ce défi il me plaît démesurément parce que j'aime beaucoup le contact, j'aime beaucoup partager, et faire une expérience c'est toujours une aventure stimulante, dynamisante, et c'est ça qui m'a attirée.
Et peut-être vous, au fur et à mesure du côté malvoyant grandissant en vous, au fur et à mesure, j'imagine que vous êtes en contact avec d'autres malvoyants. Et du coup, est-ce que, par exemple, vous avez eu l'occasion, et j'imagine forcément, d'échanger aussi, vous aviez cette passion vis-à-vis de la culture, certainement d'autres l'avaient également, mais peut-être avaient cette déficience depuis la naissance, et vous échangez peut-être dans cette perception de l'art, dans ces envies aussi
Oui.
Et le fait que peut-être tous ces lieux n'étaient pas encore, si on se situe encore à ce point de repère de date 2009, mais peut-être pas aussi attentif peut-être à cette population.
Oui, alors donc la visite d'un musée sans accompagnement est très compliquée, pour ne pas dire presque impossible. Hein, ouais. Parce que bon, on peut s'orienter, on peut s'immerger dans l'art, ça c'est toujours un plaisir, selon le degré de la déficience visuelle, on voit des choses, on perçoit des choses, mais on reste un peu sur sa faim. Donc à Genève, il y a aussi des visites descriptives qui existent, je crois, depuis deux ans. Et ça, c'est vraiment fantastique. Mais ce qui était particulier ici au musée d'Ariana, qu'on nous a fait confiance à ce monde des personnes malvoyantes, d'agir nous-mêmes comme médiateurs, comme médiatrices. Et c'est ça qui était fantastique. On avait la formation avec la conservatrice, avec l'artiste, et puis ensuite il fallait transmettre ça d'après ce que nous avons reçu et ce que nous avons ressenti, nous, parce que finalement c'est ça qui était vraiment intéressant. C'était un échange, hein. Et il n'y avait pas juste ou faux, il n'y avait que ce que nous sentons sur le moment.
C'est ça que je trouve qui est assez important, parce que peut-être à un moment donné, et peut-être Marie-Paul Christian, vous pourrez rebondir sur le thème de la formation, j'entends. Peut-être à un moment donné, dans ce que disait Hélène de Riquel tout à l'heure, il y avait l'envie, il y avait le désir, et peut-être à un moment donné, de manière, tout en étant tout à fait conscient et prégnant de l'importance de rendre accessible à ça, certains peut-être médiateurs et médiatrices se sont lancés, peut-être accompagner la personne, une personne handicapée, malvoyante, ou dans ce que pourrait être une visite, mais quelquefois en se disant, en essayant des choses, mais en se disant peut-être que là, c'est, on se fourvoie, ou on n'a pas complètement ressenti toutes les facettes de ce que doit être aussi l'accompagnement d'une de ces personnes. Comment ça s'est un peu, je dirais, formalisé, ces temps de formation? Sur quels aspects, peut-être, avez-vous senti qu'il était plus important d'insister? Sur quels étaient un peu les contenants?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment cet aspect de mettre à plat, faire une sorte de photographie du point de départ, c'est avec ses représentations, celles qu'on veut bien partager, donc qui sont souvent nourries de peur. Le déficit visuel, il suscite de l'attrait, parce qu'on se dit, comment fait cette personne qui est aveugle? C'est mystérieux, c'est un peu magique, mais c'est aussi beaucoup de peur. C'est la peur de, et si ça m'arrivait à moi?
Tout à fait.
Et donc, c'est important de le poser.
Tout à fait.
Ensuite, il y a des messages qu'on cherche vraiment à faire passer, c'est qu'il existe différentes manières de mal voir, et que les comportements sont parfois très incompréhensibles pour l'entourage, si on ne sait pas associer le type de déficit visuel au comportement. Et il y a aussi, comme vous disiez, Waltraut, c'est une férue d'art et de culture. Toutes les personnes ne sont pas équipées du même background. Et puis, certaines personnes sont devenues malvoyantes très tard, de manière très insidieuse, d'autres l'ont été très tôt, certaines très brusquement. Donc, ça fait une variété de profil qui fait qu'on fait de la haute couture, on ne fait pas du prêt-à-porter.
Et ça, c'est important. C'est-à-dire, du coup, on est vraiment dans la précision pour chaque individu. Et donc, du coup, peut-être, Hélène de Riquel, ça demande une grande adaptation, finalement, de chaque médiateur, médiatrice.
Alors, pour former nos quatre médiateurs malvoyants et aveugles, oui, bien sûr, mais ça a été tellement enrichissant, aussi bien pour elle que pour moi, qui l'ai formée. Par contre, c'est vrai qu'on n'est pas dans le discours traditionnel quand on va visiter un musée. Donc, j'ai eu des médiateurs voyants qui ont eu des difficultés parce que on était plus sur les émotions, le ressenti, et ça, c'était plus difficile que de dire la bibliographie de l'artiste.
Ça, ça va être important. Et le fait aussi de faire confiance, Waltraud, vous avez prononcé aussi ce mot, je trouvais que c'était, il était important, c'est-à-dire que du coup, l'institution musée décidant de dire, effectivement, les compétences, on va aussi les chercher auprès justement de cette des malvoyants, pour aussi qu'ils puissent être les accompagnateurs, je dirais, au plus proche. Vous parliez de haute couture, finalement, et ça me paraît également important. Enfin, c'est une décision, parce que c'est, il y a toute l'organisation du musée et de la muséologie, donc assez personnelle, qui a ses temps de formation. Là, faire appel, effectivement, à quelqu'un qui est peut-être un peu en dehors du circuit habituel, c'est un pas important de transformation, là aussi.
Oui, mais Marie-Paul nous a aidés sur ce point de vue-là, parce que bon, moi, je ne connaissais pas de personne malvoyante ou aveugle. Mmh. Et donc, Marie-Paul, Jeanne aussi m'a conseillé. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup préparé, hein, parce qu'avant que l'exposition ne commence, déjà, je suis partie à Mâcon chez l'artiste avec les personnes malvoyantes et aveugles.
D'accord.
Pour qu'ils puissent visiter l'atelier, ouais, rencontrer l'artiste. Ici, on avait quelques pièces qui appartenaient au musée, donc on les avait touchées déjà, pour voir est-ce que ça les intéressait. Et puis le projet de ces visites partage ont été vraiment montées avec elles. À la base, c'était pas du tout dans ma tête.
Du tout.
Mais bon, moi, ce que j'aime aussi, c'est de partager, enfin, que les différents types de publics se rencontrent. Mmh. Et dans ces visites partage, il fallait en fait que la personne voyante qui mettait un masque au départ découvre une pièce à l'aveugle, mais aussi, une fois qu'elle reprenait sa vue, qu'elle partage avec le médiateur malvoyant ce qu'elle ressentait maintenant ou ce qu'elle avait comme information complémentaire.
Vous écoutez Résonance sur Radio B, émission spéciale au musée Ariana à Genève. Alors, je voudrais peut-être qu'on revienne un petit peu avec vous, Marie-Paul, Christian, sur peut-être un petit peu plus maintenant sur le contenu de la formation. On a évoqué avec Hélène de Riquel que du coup, là, c'était la confiance qui était établie à des personnes malvoyantes pour devenir les médiateurs ou les médiatrices de ces publics qui viendraient au musée. Donc du coup, sur comment s'est déroulée cette formation, comment avez-vous aussi, si je peux mettre un peu ce terme, choisi ou en tout cas fait appel à un certain type de personnes pour dire, ben voilà, vous, est-ce que vous seriez intéressé par devenir médiateur, médiatrice? Comment ça s'est un petit peu passé?
Le choix des médiateurs pour le musée, en fait, c'est Hélène de Riquel qui l'a porté. Ce qui se produit, c'est que dans les sensibilisations, on tient beaucoup à la présence de personnes concernées, de deux c'est personnes, et elle a fait son choix parmi ces personnes-là. Il y a cette dynamique que donc je travaille pour un centre de réadaptation. Ce sont des personnes qu'on a connues au moment où s'installait le déficit visuel, où elles rencontraient des difficultés dans la vie quotidienne. On a cheminé ensemble avec moi ou avec mes autres collègues. Et puis les gens ont appris, sont dotés des moyens qui leur permettent de faire face au quotidien. Mais il y a comme une elles se sentent aussi impliquées dans le parcours qui a été fait. Lorsqu'on les sollicite pour contribuer à une sensibilisation, la plupart d'entre elles sont prêtes à venir au quart de tour. Donc c'est par ce biais-là. Que les personnes, elles étaient quatre à s'être impliquées dans la formation, que Hélène a pu trouver au moins trois d'entre elles qui ont été médiateurs. Donc moi, je n'ai pas un rôle, ça appartient au musée. Et puis je crois que c'est ce qui est important, c'est que ma mission, c'est de contribuer à ce que les personnes déficientes visuelles connues de l'ABA soient le mieux intégrées possible dans la cité. Alors, donc moi, je sers plus de facilitateur entre deux mondes, entre le monde de la malvoyance et puis ici, le monde de la culture, mais dans d'autres sphères, c'est le monde de la santé.
Et voilà, est-ce que du coup, fort de cette expérience avec le musée Ariana, est-ce qu'il y a eu contamination? C'est-à-dire, est-ce que d'autres musées, par exemple, aujourd'hui, font appel à vous pour aussi former d'autres futurs médiateurs ou médiatrices?
Alors, il y a des expériences diverses. Il y a eu, avant le musée Ariana, il y a eu le musée d'ethnographie à l'annexe de Conche pour l'exposition Rousseau. C'est là que Waltraut a fait ses premières armes de médiatrice. Il y a eu le travail qui a été fait par le musée d'art et d'histoire, qui est un petit peu en sommeil pour l'instant, mais qui va se réveiller.
Ça devrait
pour le printemps, avec le dégel, ça doit être
ça là. Ça devrait faire.
Et le musée d'ethnographie, le nouveau musée, on a formé les médiateurs et le personnel d'accueil. On attend que les projets émergent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on ouvre un nouveau musée.
Je pense aussi. Alors, peut-être juste pour avoir ce point de précision, Hélène de Riquel, parce que là, on parle de médiateurs qui viennent régulièrement accompagner. Est-ce que ça veut dire que, et ça va rentrer dans les champs de la formation également, est-ce que ça veut dire que ça devient des professionnels du musée ou est-ce que c'est sur du bénévolat? Quel est le statut finalement de la médiateur ou de la médiatrice?
Du médiateur malvoyant?
Oui.
Il est au musée au même titre que tous nos médiateurs. Donc, ils sont rémunérés pour leurs prestations.
Donc, on en vient à un vrai métier qui s'installe.
Oui, tout à fait. Je n'aurais pas conçu autrement.
Voilà, mais je pense que c'était important aussi de le préciser parce que du coup, on met en mouvement quelque chose d'important en faisant que du coup, on fait appel aussi, on pourrait imaginer à des médiateurs sourds. On en parlera dans quelques instants. On pourrait voir aussi vis-à-vis du handicap mental un de ces jours. Est-ce que aussi des personnes pouvant justement être aussi accompagnées, aussi ces publics-là se retrouvent en tant que retransmetteurs? Il y a aussi une place importante. En tout cas, en France, ce n'est pas encore quelque chose, puisqu'on est là aussi pour poser des regards aussi sur ce qui se passe de chacun des bords de la frontière. Ce n'est pas encore fréquent, loin de là, que des médiateurs, je dirais professionnels, en tout cas se retrouvent dans le musée, malvoyants ou sourds, et accompagnent justement des publics comme ça. Donc je trouve que c'est important aussi de... Et ça, j'imagine que ça a été évoqué dans la formation, dans comment ça a été expliqué, de dire que ça allait être une fonction régulière ou pas ?
Non, on ne l'a pas formalisé de cette
pas formalisé de cette manière-là.
Non, parce que ça appartenait au musée, ça appartenait pas
c'est
à
ça.
Ce qu'on partageait de, des particularités ou des spécificités des déficits visuels. Non, c'est vraiment c'est ce qui permet de participer avec enthousiasme aux initiatives des responsables de médiation des musées. C'est la part humaine et la conception d'un accueil qui se fasse vraiment en partenariat.
Alors, Valdraoud, tout à l'heure, Marie-Paul Christian évoquait, lorsqu'on passait un peu en revue, est-ce que ça contamine d'autres musées ? Votre première expérience, alors justement, quand il y a eu ces moments de concertation, de formation, et puis qu'à un moment donné, vous vous êtes lancé dans le bain à faire une première visite, à accompagner une première visite, comment vous avez ressenti cela ?
Vraiment, moi, je trouve que c'était pas très difficile pour moi. Non, j'aime ces expériences. C'est peut-être dans ma nature d'aimer un défi et puis d'établir ça. Ça me tente. Est-ce que je suis capable d'installer une relation ?
Ouais.
Est-ce que je peux maintenant motiver les gens ? Est-ce qu'il y aura un échange ? Est-ce qu'il y aura un petit brin de vérité qui se passera entre nous ? Et c'est ça qui est important pour moi, parce que finalement, quand on travaille sans l'appui de la vision, il y a quelque chose qui disparaît, c'est l'apparence. Et les yeux bandés, si je peux dire comme ça, on se dénude un tout petit peu.
Ah, c'est intéressant, bien sûr.
Oui, parce que vous voyez, on a une certaine crainte, et le médiateur doit donner confiance. Il doit mettre les gens à l'aise. Alors voilà, maintenant on va avancer tranquillement, on allait tranquillement dans la salle, je les ai amenés devant une sculpture. Alors on a commencé un dialogue un peu, sur une autre base que ce qu'on fait d'habitude. Il y a une certaine gêne qui n'existe pas quand on ne voit pas. Disons, moi je ressentis toujours comme ça. Et pour moi, ça c'est quelque chose que j'aime parce qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans.
Ça, je trouve que c'est important. Du coup, obligeant finalement l'autre à venir à encore être plus aigu au niveau de tous ses autres sens, finalement, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire un peu plus à nu, finalement, et il y a une vérité, petit à petit, du dialogue qui s'installe vraiment.
C'est différent, et cette différence, ça donne un tout petit peu une autre direction à un dialogue. Il y a peut-être aussi moins de gêne de dire quelque chose. Quand les gens touchaient les sculptures, ils s'exprimaient plus facilement, je trouve, qu'en regardant. Quand on demande, quand on fait une visite de musée, disons, comme moi je suis une visite de musée, puis les gens doivent dire ce qu'ils voient, souvent ils se gênent beaucoup. Mais quand ils touchaient, ils s'exprimaient plus facilement. Bon, c'est mon expérience, je ne peux pas
bien
généraliser.
C'est
vraiment que
c'est important comme retour.
Qu'une petite expérience ponctuelle, mais je le remarque. Hein.
Ouais.
La verbalisation, c'est ça qui compte.
Oui.
Donc, on construit avec ce qu'on a.
Et c'est les mêmes rapports avec des voyants se prêtant au jeu de se laisser guider par vous, enfin que ce soit malvoyant ou voyant, vous sentez une différence justement dans cette... je dirais, dans cette clarté et peut-être vérité de l'échange ou du dialogue ?
Oui, alors, parce que les personnes avec une bonne vue ont les yeux bandés.
Oui.
Donc, ils sont, pour le moment, dans la même situation. Et puis, ils ont passé par moments de déstabilisation.
C'est ça, parce qu'il y a aussi ça.
Il y a quand même grande déstabilisation.
Absolument.
Au moment où je dois aller... on les accueillait dans une pièce, on les a amenés dans la pièce d'exposition, dans une autre salle.
Ouais.
Donc, pour faire le trajet, ça, c'était vraiment le premier grand obstacle.
J'imagine.
Et puis, tout à l'heure, on a parlé de la confiance.
Oui.
Alors là, les gens doivent me faire confiance. Et à partir de là, les choses...
Change.
Je ne sais pas si j'ai exprimé...
Si, tout à fait, c'est même très clair. Et puis justement, ça nous montre finalement que, quel que soit finalement l'art, ça peut être la musique, ça peut être la danse, mais on est vraiment dans l'aspect du relationnel, de comment on va aller à la rencontre de l'autre, et que peut-être aussi le fait qu'on soit obligé à certains moments donnés de jouer sur d'autres sens qui ne sont pas ceux qu'on utilise habituellement, nous oblige effectivement peut-être à... d'une part, peut-être à quitter des préjugés, peut-être d'autre part à essayer de... voilà, est-ce que je peux lâcher toutes les choses que je tiens habituellement et peut-être me découvrir autre, peut-être aussi.
Oui, je pense que c'est un tout petit peu ça.
C'est un petit peu ça, hein. Sans ouais. prétention, on est tout à fait d'accord, mais peut-être il y a quelque chose qui est effectivement déstabilisant, m'oblige à me découvrir autrement ou à oser entendre que je peux être un peu autre.
Ouais, on clique un peu sur une autre fenêtre.
Ah, j'aime bien aussi cette idée, on clique un peu sur une autre fenêtre. Donc, autre ouverture, autre regard, autre dimension, autre sensation.
Voilà, je pense que c'est un peu effectivement ça.
Et peut-être encore, quand vous accompagnez une visite, comment vous la préparez, vous, de votre côté? Est-ce qu'il y a plusieurs visites que vous faites? Est-ce que c'est sélectionner un parcours spécifique, une type d'exposition, où Hélène de Riquel évoquait des projets qui se mettent en place, et c'est tout le travail de concertation, d'élaboration, de dialogue, puis après, vous commencez à imaginer ce que va pouvoir être l'accompagnement. Comment procédez-vous?
Ah oui, ah bon, donc ici, on était très bien préparés par Hélène de Riquel et par l'artiste lui-même. On a fait toute une journée d'études avec lui. Et puis, on avait développé une démarche, un cadre pour la démarche à suivre. C'était ça, notre préparation. On connaissait bien les sculptures. On les avait regardées avec les mains, avec notre résidu visuel, à plusieurs reprises. Donc, on avait établi un contact personnel avec... l'œuvre. Ça, c'était la première chose. Et deuxièmement, on avait une stratégie comment procéder pratiquement avec les personnes. Comme je vous ai dit, ce qui était très important, c'était l'accueil. Donc, on était deux personnes malvoyantes comme médiateurs. Et puis, il y avait l'historienne d'art qui expliquait un peu la démarche de l'artiste. Et puis, il y avait aussi des bénévoles qui étaient là, qui regardaient que les gens ne se tapaient pas contre un bord de la table, etc. Alors voilà, ça, c'était notre préparation. Il fallait avoir beaucoup de points préparés pour une sculpture, pour attraper le signal qui était donné par les gens. Hein. Donc, j'ai pas pu dire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ça pouvait commencer à 8, aller vers 1, aller vers 3. Mais dans ma tête, j'avais un concept petit à petit, ça se remplissait.
C'est ça.
Et puis, parce que une rigidité, ça sera déplacé. Mais ne rien préparer, ça ne va pas non plus.
Absolument.
Alors, donc, après, quand on enlevait le masque, alors, il y avait un autre type d'échange, parce que les gens m'expliquaient des choses sur les sculptures que même si je les regardais pour la 15e fois, je n'avais pas encore vu, pas perçu, etc. Il y avait toujours d'autres détails. Et c'est ça qui est intéressant, parce que chaque fois, c'est un peu différent. Et ça change aussi beaucoup adultes, enfants, ou bien familles, adulte seul ou adolescent seul. Alors, selon le public, la découverte à travers les doigts est différente.
Marie-Paul Christian, vous disiez aussi tout à l'heure en aparté quand nous préparions que d'autres personnes malvoyantes piaffaient d'impatience aussi pour dire nous maintenant ça nous intéresse de pouvoir aller voir, de pouvoir visiter, de pouvoir être accompagné. Donc il y a le fait que cette attention du musée, la mise en place de ces formations, la mise en place de ces médiateurs, finalement incite d'autres malvoyants à se dire oui, maintenant je peux vivre l'expérience muséale, aller rencontrer les œuvres.
Je pense que c'est la grande force de tout le travail qui a été fait sur le réseau Genevois, c'est que les personnes ont fait des expériences, ils en ont parlé autour d'eux et ils attendent les propositions. Et donc ils sont très, très friands. Vous avez des personnes qui sont entrées pour la première fois au musée à 80 et quelques années.
Et
d'autres qui y allaient toutes les semaines et qui ont aussi découvert une autre manière d'approcher les œuvres. Et je pense que la grande force, quand on en est au balbutiement de l'accessibilité des bâtiments et des lieux, c'est l'accessibilité, les facilitations qui sont apportées par les médiateurs et par la part humaine de l'accueil, de l'information, parce qu'on sait à qui s'adresser. On sait qu'est-ce qui va se produire. Comme visite audio décrite, c'est vraiment cet aspect-là. Et peut-être de se prémunir d'une annonce, d'un effet d'annonce que le musée ou l'exposition est parfaitement accessible, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont seront rares, mais qui vont mettre à l'épreuve,
c'est ça, le dispositif.
La réelle accessibilité du dispositif. Et on s'est rendu compte, par exemple, quand on préparait la visite, ne serait-ce qu'ici, d'arriver entre l'arrêt du bus numéro 8 et le musée, ben, il y a une zone un petit peu compliquée où il n'y a pas beaucoup de repères pour pouvoir faire ce trajet, donc qui nécessite un accueil, un accompagnement sur la dernière portion de trajet. Ça peut être un obstacle.
Hélène de Riquel, du coup, ça oblige à on parlait d'actualisation, création aussi tout à l'heure, à finalement écoute, être capable de recevoir aussi aussi ces remarques, bouger, reproposer, inventer. Donc ça met sérieusement, je dirais, en mouvement le musée et son équipe.
Ah, complètement. Parce que ne fût-ce que quand Marie-Paul parle de l'accessibilité du bâtiment en tant que tel, on s'est rendu compte qu'on est dans un très beau musée, un très beau parc, mais les chemins sont un petit peu dans un état de décrépitude, si on peut dire. Les racines d'arbres sortent. Eh bien, faites passer quelqu'un qui n'a plus sa vue, c'est vraiment pas évident. Donc, on a aussi travaillé sur l'accessibilité du musée en tant que tel. Et puis, des petits rebords, des petites marches qui sont à peine visibles pour nous. On marche normalement. Eh bien, pour une personne dans une situation d'handicap, c'est compliqué.
Vous écoutez Résonance sur Radio B, émission spéciale au musée Ariana à Genève. Et là, nous venons d'entendre la troisième pièce pour marimba de Jean-Claude Schlepfer, qui est une commande du CIP, du Centre international de percussion de Genève, et qui était interprétée par Thierry Debon. Alors peut-être, Hélène de Riquel, on vient beaucoup d'évoquer, en présence de Val Traut et de Marie-Paul Christian, la communauté malvoyante. Évoquons peut-être en quelques mots aussi la communauté sourde, si vous le voulez bien, puisque ça fait partie aussi des publics avec lesquels vous avez mis en place des choses. Est-ce qu'il y a des similitudes, hein ? On évoquait tout à l'heure que les personnes malvoyantes piaffaient, justement, au fur et à mesure de sentir que, voilà, on leur proposait des choses et qu'il y avait des modalités. Comment ça se passe avec la communauté sourde ? Ça veut dire que là aussi, il y a médiateur ou médiatrice sourde pour ces publics-là. C'est un peu le même dispositif qui se retrouve.
Alors déjà, le public malentendant ou non-entendant a été le premier public qu'on a approché ici au musée Ariana, donc ça date de 2009. Mmh. Et là, donc, on a engagé une médiatrice sourde qui ne parle que la langue des signes.
Des signes.
Donc on l'a formée à la fois sur les contenus et sur le métier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, elle a travaillé aussi bien sur les collections permanentes que sur des expositions temporaires. Alors depuis 2009, comme on était les premiers et qu'on était les seuls à offrir des visites en langue des signes, on avait une fréquentation assez importante par rapport évidemment à ce type de public.
D'accord.
Et d'autres musées genevois, et c'est très bien, se sont mis aussi
dans ces dynamiques.
Dans cette dynamique, exactement. Alors on constate maintenant, on a un peu le revers de la médaille si on peut dire, c'est que on a de moins en moins de public. Donc, je prends un exemple. On a une exposition sur un artiste genevois, Jean-Marie Borgeot.
Oui.
4 visites en langue des signes est organisée et il y a eu 3 personnes pour les 4 visites. Donc, c'est vrai que l'offre est de plus en plus importante.
Oui.
Et on remarque, en tout cas, qu'il y a une
Vous attribuez peut-être aussi à ça, ou c'est pas uniquement cette question, dire d'autres lieux, d'autres musées, donc se sont mis en capacité. Avez-vous des fois eu l'occasion d'échanger avec eux? Peut-être, est-ce qu'ils ont des constats similaires? Est-ce que, sans dire que ça serait sur le comportement d'un groupe spécifique qui aurait un type d'attitude vis-à-vis de ce type d'établissement, ou est-ce que voilà, c'est des modalités qu'il faut trouver encore, c'est encore des manières de faire différentes qu'il faudrait faire, vous échangez avec eux aussi constatent des choses similaires?
Ah, bien sûr, ils constatent, donc moi j'ai discuté via un interprète évidemment, avec notre médiatrice sourde, et donc elle me disait, mais nous les sourds on aime le contemporain, on n'aime pas l'historique. bon, c'est un peu généralisé, hein, mais
oui, 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 oui.
Donc j'avais constaté ça pour notre exposition consacrée à la céramique islamique.
Oui.
Mais en fait, je remarque aussi que par rapport à du contemporain, la fréquentation
n'est
est en baisse.
Peut-être pas plus importante.
Mais peut-être qu'elle est plus, ne fût-ce qu'au musée de la Croix-Rouge, qui ont mis en place des visites. Donc, s'ils vont ailleurs, moi, ça me dérange
bien
pas
sûr.
Du moment qu'ils vont dans les musées. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devra... en tout cas, il faut que ce soit abordé pour comprendre et éventuellement se repositionner. Pour offrir quand même, continuer à offrir à ce type de public des visites.
Est-ce que, par exemple, en handicap mental, vous avez aussi des sollicitations ou vous avez déjà des visites aussi qui sont mises ou pour l'instant plutôt en pointillé?
Non, alors depuis la fin de 2009-2010, on a été en contact avec Madame Kate Pastor qui travaille à Cap Loisir, Mille et une Feuilles, et puis on a reçu déjà des personnes en situation de handicap mental. Où il y a eu des visites, des ateliers, et ils sont même venus l'année passée au moment de la nuit des musées. Donc, ils viennent comme ça une fois de temps en temps ici au musée. Mais on n'a pas de médiateur en tant que tel. Par contre, ils ont formé deux personnes en situation de handicap pour être des futurs médiateurs.
Oui, nous avions eu justement dans le cadre de nos correspondants, justement dans le cadre de l'émission, Kay Pastor, qui nous avait à plusieurs reprises dans certaines de nos émissions fait état de ce projet de formation qui était en route pour permettre justement également à des personnes handicapées mentales de pouvoir elles aussi devenir des retransmetteurs, des passeuses et des passeurs aussi dans ce cadre-là. Donc du coup, ça demande là aussi une adaptation sans arrêt, quoi, finalement, entre le projet, les publics, la concertation avec les uns et les autres. On entendait qu'il y a une concertation très 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 étroite avec l'association pour le bien des aveugles et malvoyants. Est-ce que ça veut dire aussi que le musée tisse avec toutes les associations de handicap finalement des liens, je dirais, aussi forts et aussi proches?
Alors, je pense que j'ai un partenariat spécifiquement enrichissant avec l'ABA. Mais bon, ça dépend du cas par cas, parce qu'évidemment, ce qu'on a fait par rapport à Jean Fontaine, l'idéal, c'est quand on essaye d'approcher des publics un petit peu différents, c'est de pérenniser.
Oui.
Or, dans un musée, on ne peut pas toucher en général. Donc, c'est vrai que par rapport à l'handicap visuel, l'exposition qu'on a actuellement, j'ai vraiment sollicité l'artiste pour que certaines personnes en situation d'handicap visuel puissent toucher ses œuvres. Parfois, on a des expositions qui sont complètement sous vitrine et voilà, c'est pas possible.
Bien sûr.
Mais c'est bien de pérenniser ces actions parce que se crée aussi des liens avec ces personnes.
J'imagine.
Et c'est devenu presque des copines, hein, des amis. Voilà, c'est important parce que c'est très enrichissant.
Voilà, ça aussi, je crois que c'est important ce que vous soulevez parce que c'est un partage et que c'est vraiment un travail dans la durée de part et d'autre et que là, les choses peuvent se construire. Peut-être, Marie-Paul, Christian, est-ce que... Alors, j'élargirais peut-être plus à la communauté des malvoyants. Est-ce que ça aussi, ça fait changer, je pense, aux associations en direct, venant accompagner les différents malvoyants? Est-ce que ça a changé des positionnements par rapport à la culture en général? Ou est-ce que le fait de cette expérience-là, ça a permis peut-être d'enclencher d'autres postures associatives, là, de porter une parole d'une communauté, mais sollicitant peut-être l'institution, sollicitant peut-être un pouvoir politique ou d'autres acteurs culturels? Est-ce que ça crée des dynamiques supplémentaires pour interpeller un petit peu plus fortement les lieux de culture ou les lieux de passeurs de culture?
Alors, une chose, donc l'association pour le bien des aveugles, donc sa mission c'est d'intégrer, que les personnes s'intègrent dans la cité. Donc on n'a pas une action d'emmener un groupe.
C'est ça.
On travaille individuellement avec les personnes à leur capacité, au développement de leur capacité d'autonomie. Par contre, le travail que l'on a réalisé sur le plan des conseils en accessibilité, nous fait dire qu'il y a vraiment un fort besoin, parce qu'on voit bien les convergences. Tout à l'heure, on évoquait l'aspect aussi du milieu de la santé.
Tout à fait.
Tous les milieux qui accueillent des personnes déficientes visuelles ou des personnes qui deviennent très âgées ont à se poser des questions sur ce qu'elles font sur le plan de la visibilité et de l'accès à l'information, sur différentes dimensions de l'accessibilité. Donc c'est un champ qui va se développer d'année en année, on espère, avec la difficulté que l'on a, nous, En Suisse, c'est qu'il y a une règle, il y a une loi, la ELAND, mais il n'y a pas de règlement d'application. Donc on n'est pas contraint comme en France voisine sur des réglementations et des décrets d'application qui font que on a besoin de l'enthousiasme et de l'investissement,
des responsables
des acteurs et des responsables pour que des choses se passent.
Bon, Jeanne Pont nous disait aussi ce matin qu'il y a un engagement politique qui est beaucoup plus soutenu et fort aussi. Alors certainement qu'il peut y avoir des graduations, bien évidemment, en fonction, j'imagine, des sensibilités des personnes et des différents élus. Mais il y a quand même un engagement politique plus fort par rapport à ça, même si effectivement, alors en France voisine, effectivement, il y a des décrets, il y a des lois. Des choses bougent, des choses avancent. La loi ne fait pas tout non plus. Et là, par contre, là où je vous rejoins amplement, c'est on retrouve que ça rejoue sur l'acteur, la qualité de l'acteur, qu'il soit culturel ou de la santé. Si celui-ci n'est pas investi, si celui-ci n'est pas motivé, si celui-ci n'est pas l'acteur vraiment fort, la loi pourrait être bien là, même si on essaye de la mettre en pratique. On voit que partout, c'est l'acteur qui va être en jeu, finalement.
C'est vrai. Et là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un public qui est prêt à se mobiliser et à venir... profiter des expositions, des offres culturelles qui lui sont proposées.
Vous écoutez Résonance sur Radio B, émission spéciale au musée Ariana à Genève. Et nous venons d'entendre encore un des fragments de cette pièce en plusieurs mouvements de Jean-Claude Pfeiffer, commande du CIP, du Centre International de Percussion de Genève. Ici donc la 7e pièce pour Marimba, interprétée toujours par Thierry Debon. Nous allons maintenant retrouver la rubrique de Gérard Bonnefond, avec lequel nous découvrons ensemble, au gré de notre saison radiophonique, l'histoire de l'évolution des pratiques artistiques au sein des établissements de santé et de soins.
Aujourd'hui, ma chronique traitera de l'aventure artistique conduite par Jean Revol, peintre et critique d'art, qui de 1975 à 1985 a parcouru la France des foyers et des ESAT, afin de faire découvrir la peinture et le dessin à des adultes handicapés mentaux. Observateur avisé de la vie dans les ESAT, il découvre que le système mis en place produit de la dépendance et les ouvriers travaillent dans un lieu où ils sont considérés trop souvent, du seul point de vue de leur handicap. Il écrit dans son ouvrage « Art de débile, débile de l'art », paru en 1987, « Les handicapés, pour une immense majorité, vivent sous le signe de l'interdit suspendu au-dessus de leur tête comme l'épée de Damoclès, l'interdit majeur étant le sexuel. Il n'est personne aussi bas qu'il se situe sur l'échelle sociale qui n'ait pouvoir sur le handicapé. Il n'est pas question de vouloir diminuer les mérites du personnel travaillant en CAT. C'est le cadre même de ces établissements, le cadre conceptuel dans lequel ils enferment le phénomène psychique, qui paraît insupportablement étroit, et ceux qui y travaillent en sont le reflet. Le dépassement d'une telle situation devient possible grâce à l'introduction des arts plastiques, qui permettent de disposer d'un temps pour soi, d'un temps libéré de la contrainte productive et de la dépendance. Alors, à l'aide de la peinture acrylique, de feutre et aussi de pastel gras, ces ouvriers se sont lancés dans l'aventure de l'art. Lors d'un entretien le 19 février 2010, Jean Revol décrivait sa manière de travailler. il y avait quelques règles dans l'atelier, comme respecter son dessin, et une simple feuille barbouillée ne devait pas être déchirée. Je leur disais qu'ils feraient mieux la prochaine fois, et je ne leur ai jamais montré mon travail pour éviter tout risque d'imitation. Pendant les séances, je faisais leurs portraits, cela les amusait beaucoup. Ils m'interpellaient de la voix, « Monsieur Jean », et de leurs mains, de leurs gestes, ils me sollicitaient. La relation personnelle était importante, ils peignaient pour moi, parce que j'étais là, bien présent dans l'atelier. Pendant les séances, on parlait beaucoup, pas forcément de peinture, de ce qu'ils aimaient faire dans la vie. On riait très souvent dans l'atelier. Ils existaient, ils se découvraient, et ils travaillaient en même temps. Certains peignaient ou dessinaient pendant des heures. Jamais je n'ai mis la main sur un dessin ou une peinture. Je ne les aidais pas. Mes interventions étaient assez rares. Par exemple, pour l'un d'entre eux, je proposais des pistes. La ville, le cirque. Ainsi, ils se sentaient déchargés de toute responsabilité en cas d'échec. Une enclave artistique est constituée. Et la pratique régulière démontre que les ouvriers handicapés mentaux ne sont pas démunis sur le plan des arts plastiques. Chacun son style, sa vérité. Alors se dressent des fresques et des tableaux réalisés par des personnes dont on n'attendait rien ou si peu. La vie artistique entre par une porte dérobée avant de s'installer un peu plus, apportant des satisfactions et du plaisir. Jean Revol, le premier, a apporté les preuves artistiques que des ouvriers des ESAT pouvaient, comme tout autre, représenter leur univers personnel, leur environnement, leurs émotions, et certains avec talent. Il parle avec enthousiasme de ces peintres qu'il nommait les personnes images. L'art que nous avons trouvé au CAT et au plus haut point abstrait et cérébral, le style y est conquis au prix d'un travail opiniâtre. C'est l'effort de l'homme pour échapper au chaos, se créer un langage, le conquérir signe par signe, comme le peintre naïf conquiert son arbre feuille par feuille. Alors il propose le concept d'un art originaire. Apparaît alors un langage qui est un style et proprement celui des débiles. C'est la matrice et la jeunesse de l'image, un langage organique à la respiration large et lente, comme si les profondeurs du corps envoyaient à l'esprit images et messages. Jean Revol a joué un rôle de précurseur en révélant le talent de peintre ayant un handicap mental, et plus largement en validant la pertinence d'ouvrir des ateliers qui sont d'inestimables espaces de liberté pour une expression personnelle et que l'on fréquente sans aucun prérequis et de plein droit. L'art n'est pas une récompense après le travail, mais un mode d'expression disponible, investi sans aucune condition. Là, les personnes trouvent une autonomie artistique qu'elles ont gagnée à force de travail, de recherche, d'erreurs et aussi de satisfaction. Une autonomie qu'il leur est impossible d'atteindre ou parfois qu'il leur est confisqué dans d'autres domaines de leur vie. La prochaine chronique traitera de deux conceptions opposées qui s'énoncent en ces termes, art ou handicap ou art du handicap. Bonne journée.
Nous arrivons au terme de cette émission. Je souhaitais à nouveau vous remercier vivement, Hélène de Riquel, de nous avoir accueillis ici au Musée Ariana.
Ben, c'est nous qui vous remercions.
En tout cas, c'était un plaisir, Marie-Paul Christian, de vous avoir à ce micro.
Merci beaucoup.
Ainsi que Valtraut Kilbier aussi pour ce témoignage vraiment fort, je dirais, et sensible, et qui est important justement de pouvoir partager ici dans ce cadre de cette émission.
C'était un plaisir. Merci beaucoup.
J'espère aussi à bientôt. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, j'étais. Donc, d'abord, cette émission était enregistrée le 23 février dernier, donc au musée Ariana à Genève. J'étais accompagné aujourd'hui de Gérard Bonnefond, à la technique, à la réalisation de Simon Deborne, à la régie générale Laurent Cuzin. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 18h à 19h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org. Pour écouter Radio B en direct ou en différé, podcasté, et connaître la grille des programmes, vous pouvez vous rendre sur www. www.radio-b.fr. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité, et que cette journée vous soit belle et douce.